Évangile de Marc, chapitre 2, à partir du verset 23, page 1118 dans les Bibles bleues. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent : « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit : « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons ? Il est entré dans la maison de Dieu à l'époque du grand prêtre Abiathar à manger les pains consacrés qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit : « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée : « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit : « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal ? De sauver une personne ou de la tuer ? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, il promena sur eux un regard de colère. Et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme : « Tends ta main. » Il l'attendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Amen. Alors ceux qui ont ou qui ont eu de jeunes enfants connaissent peut-être cette situation. On se doute que son enfant a fait telle bêtise. On voit les résultats, on se doute très bien de ce qui s'est passé, mais on n'a pas été témoin direct de la scène, on n'a pas la preuve absolue, on ne l'a pas vu faire. Comment est-ce qu'on réagit ? On se met en mode DGSE, surveillance minute par minute, en espérant secrètement qu'il ou elle refera la petite bêtise pour qu'on puisse cette fois le prendre la main dans le sac et le ou la gronder. Ou bien peut-être que ça n'arrive qu'à moi, mais en tout cas, ça m'arrive de temps en temps. Dans le texte de ce matin, nous voyons l'élite religieuse du temps de Jésus commençait à le scruter, à surveiller ses faits et gestes, dans l'espoir de le voir faire quelque chose qui, selon eux, le mettrait en faute. Nous sommes encore vers le début du ministère de Jésus, dans la région de Galilée, au nord d'Israël, la région où Jésus a grandi. Si vous vous rappelez les épisodes précédents, on a vu que la question que Marc pose depuis le début de cet évangile, qu'il nous pose implicitement, est la suivante. Qui est Jésus ? C'est en sous-texte, dirons-nous, depuis le début de l'évangile. Qui est ce Jésus ? Qui est-il vraiment ? Marc a des réponses à apporter à cette question, c'est pour ça qu'il écrit cet évangile. Mais il le fait non pas par un exposé démonstratif construit, d'autres textes de la Bible sont plus comme ça, l'épître aux Romains par exemple, l'épître aux Hébreux. Marc, lui, ne procède pas tellement comme ça, mais plutôt en nous décrivant des scènes, souvent courtes chez Marc, où on voit Jésus agir et enseigner. On a vu en étudiant le début de cet évangile que la question de l'autorité est une question qui revient régulièrement. Jésus exerce une autorité dans son enseignement, mais aussi une autorité qui s'exerce sur la maladie, sur les puissances spirituelles mauvaises. Une autorité qui se dévoile peu à peu, comme une évidence aux yeux de ceux et celles qui côtoient Jésus. Et bien aujourd'hui, on va voir que Jésus exerce aussi l'autorité sur la vie spirituelle des hommes. La problématique spécifique de ce petit extrait de ce matin est celle du sabbat, ce jour de repos ordonné par la loi de Moïse pour le septième jour de la semaine. Et en lisant ce texte, on va se poser deux questions qui seront nos deux temps de réflexion. D'abord, qui a autorité sur le sabbat ? Et deuxièmement, à quoi sert le sabbat ? Dans un premier temps, donc, qui a autorité sur le sabbat ? Vous aurez remarqué à la lecture, je pense, que notre extrait se divise en deux scènes bien distinctes et qui se suivent immédiatement, hein, le texte le précise. Dans la première, nous voyons Jésus traverser un champ de blé avec ses disciples. Alors nous sommes près de Capernaum, au bord du lac de Galilée, un cadre très rural. Rien de surprenant à ce qu'on traverse un champ de blé pour se déplacer de lieu en lieu. Pour nous, parisiens, champ de blé, on pense tout de suite classe découverte, week-end ouvert, etc. Mais pour, à l'époque, c'était vraiment dans le paysage quotidien. Or, en traversant, les disciples vont faire quelque chose qui, en fait, semble assez naturel, quelque chose que vous avez peut-être déjà fait en traversant un champ de blé, avouez-le. Ils arrachent quelques épis de blé. Or, Jésus et ses disciples ne sont pas seuls, puisque des pharisiens, j'y reviens, sont là également. Alors, est-ce qu'ils suivaient un peu derrière le groupe des disciples, voire étaient avec eux, pour s'entretenir avec eux? Est-ce que, en fait, ils étaient à la sortie du champ, ils les ont vus à ce moment-là? On ne sait pas trop, Marc ne nous donne pas tous ces détails. Mais en tout cas, ils vont accuser les disciples de Jésus d'enfreindre les règles du sabbat. Verset 24, « Regarde, disent à Jésus, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Un mot donc sur les pharisiens. Ce n'était pas, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, des responsables religieux officiels, comme l'étaient les membres du Sanhédrin ou les prêtres. C'était plutôt des militants, en quelque sorte, des militants d'une sorte de parti religieux, des militants d'une observance rigoureuse et codifiée de la loi de Moïse, des notables religieux, en quelque sorte. Et là où souvent la loi révélée par Dieu à Israël, la loi de Moïse, gardait une certaine souplesse dans son application, ne nous donne pas de précision sur la manière exacte d'appliquer les choses, eh bien les pharisiens, eux, passaient beaucoup de temps à préciser ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire. En quelque sorte, ils blindaient les commandements divins, si j'ose dire, en les entourant de règles supplémentaires pour s'assurer qu'on était bien dans les clous. Alors je simplifie, bien sûr, mais cela nous donne une idée, c'était un petit peu cela. Et nous avons un bel exemple de cela dans notre texte. Il était interdit, naturellement, de moissonner le jour du sabbat. Forcément, le jour de repos, on ne va pas se mettre à faire la moisson. Mais les pharisiens estimaient que, en quelque sorte, par principe de précaution, il était interdit d'arracher même à la main quelques épis. Parce que ça serait une forme de mini-moisson, si vous voulez. Alors ça peut nous paraître tiré par les cheveux, comme on dit, mais il faut reconnaître que dans notre société, je ne parle même pas d'un cadre religieux, mais dans notre société, nous avons quantité de règles qui ont du sens à l'origine. Si on retrace l'origine, on comprend le sens que ça a pu avoir, mais qui sont poussées à l'extrême et qui finissent par devenir absurdes. Je me rappelle cette fois où je suis allé chercher ma voiture à la fourrière. Et oui. Mais il me fallait la carte grise pour pouvoir la récupérer. Le problème, c'est que j'avais laissé la carte grise dans la voiture. Peut-être arrivé à d'autres aussi. À la fourrière, je suis allé donc récupérer ma voiture. Il aurait suffi que l'employé à qui j'ai remis les clés aille chercher la carte grise dans la voiture pour que je puisse récupérer la voiture. Mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de procéder ainsi. Et donc, ils m'ont renvoyé à pied au commissariat, à plusieurs kilomètres, pour que j'aille demander au commissariat l'autorisation écrite de demander la permission à l'employé d'ouvrir la voiture pour me donner la carte grise. Il y a des règles comme ça qui ne veulent plus rien dire parce qu'elles sont devenues comme des fins en soi, des principes absolus détachés de toute réalité humaine. Et c'est frappant de voir que c'était le cas même pour un commandement de Dieu comme le sabbat, parce que le sabbat est un commandement divin dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, commandement juste et bon, mais que les hommes avaient codifié et entre guillemets blindé par leur tradition contestable. Alors comment Jésus va-t-il répondre à ce reproche qui est fait à ses disciples? Eh bien, il va le faire de façon tout à fait surprenante, dans un premier temps surtout. Jésus va évoquer en quelque sorte un précédent historique. Il évoque un incident du temps de David, le roi David. Donc, lorsque le futur roi, David n'était pas encore roi à ce moment-là, il n'était encore que le gendre du roi Saül, lorsque David donc s'était enfui sous la menace de son beau-père. Je ne sais pas si certains ont des problèmes de famille, mais là, c'était vraiment compliqué. Donc, Saül persécutait David, et David a trouvé refuge auprès d'un prêtre qui lui a donné du pain, qui était normalement consacré au culte. Et on ne rigolait pas avec le pain consacré au culte dans la loi de Moïse, c'était très sérieux. Normalement, cette loi réserve aux prêtres seuls le droit de manger de ce pain. Ce sera un peu long d'expliquer pourquoi. Là, on sait par le Nouveau Testament que la loi de Moïse était une manière de montrer, d'exprimer la sainteté de Dieu et le besoin pour le peuple d'Israël d'être un peuple à part pour Dieu. Le Nouveau Testament donc apporte la pleine lumière là-dessus. Mais tout ça pour dire que c'était quelque chose de tout à fait sérieux. Mais le prêtre a estimé qu'en l'occurrence, son devoir était de nourrir David et ses hommes affamés qui fuyait l'injustice du roi Saül. Un épisode bref, un peu énigmatique, qu'on trouve dans le premier livre de Samuel. Pourquoi est-ce que Jésus invoque cela ici ? Il me semble que la réponse vient de ce que nous avons dit plus tôt. La question centrale dans cette section de l'évangile de Marc est celle de l'autorité de Jésus. David n'était pas seulement un jeune homme affamé. C'était celui que Dieu avait choisi pour devenir le futur roi d'Israël, à la place précisément de Saül. Et implicitement, cet épisode de l'Ancien Testament nous dit qu'il y a parfois un ordre de priorité dans les commandements de Dieu. En l'occurrence, la protection qui devait être accordée au roi que Dieu avait choisi et qui était persécuté par un roi injuste avait priorité, on va croire le texte d'un Samuel, sur l'observance précise de la loi rituelle sur les pains consacrés. Alors on voit que le prêtre quand même s'assure que David et ses hommes sont en état de recevoir ce pain. Il y a donc, on prend au sérieux quand même la loi, mais dans l'observance précise, c'est plus souple. Alors Jésus est-il en train de nous dire ici que bien finalement la loi de Moïse était malléable à souhait et qu'on pouvait sans problème l'adapter aux circonstances selon le bon vouloir de chacun? Non, pas du tout. Son propos ici est ailleurs, comme le montre le verset 28. Si David, en tant que futur roi légitime d'Israël, pouvait avoir l'autorité de remettre en question l'application stricte d'un commandement, à combien plus forte raison Jésus à l'autorité sur le sabbat. Et à vrai dire, le raisonnement des versets 27 et 28 est assez stupéfiant. Jésus commence par rappeler ce qu'il développera un peu plus loin. Le sabbat a été créé pour l'homme, pour son bien. Dieu n'a pas créé le sabbat pour qu'il soit un fardeau. Au contraire, le sabbat a été créé pour libérer l'homme de son travail, pour alléger les contraintes, pas pour en rajouter. On y reviendra plus en détail dans quelques minutes. Mais empêcher à des hommes de cueillir quelques épis de blé sous prétexte du sabbat, surveiller et scruter leur liberté à chaque instant en attendant, comme des patrons pointilleux, en attendant le moment où ils chuteront pour pouvoir leur reprocher, c'est faire exactement le contraire de ce que le sabbat visait. Mais le verset 28 va plus loin encore. « Puisque le sabbat a été fait pour l'homme, déclare Jésus, le Fils de l'homme et le Seigneur même du sabbat. » Au début du chapitre 2, Jésus a déjà dit que le Fils de l'homme avait le pouvoir, plus littéralement l'autorité, de pardonner les péchés. Il nous dit ici que le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Et il n'y a pas de doute quand on lit l'évangile de Marc sur l'identité de ce Fils de l'homme. C'est Jésus lui-même, bien sûr. Il n'y a aucun doute. Jésus utilise fréquemment cette expression pour parler, qui remonte au prophète Daniel, c'est un peu long pour expliquer, mais pour parler de lui-même et se désigner comme le Messie. Et Jésus semble nous dire ici, par une sorte de jeu de mots, que puisque le sabbat a été créé pour l'homme et qu'il est lui le Seigneur des hommes, eh bien il est Seigneur sur le sabbat. Il ne pourrait pas dire les choses plus fortement. Jésus ne se contente pas de dire « Dieu m'a confié l'autorité d'interpréter valablement le sabbat ». Ça serait déjà aller très loin, mais il ne se contente pas de dire cela. Il dit « Je suis le Seigneur du sabbat ». Vous imaginez un instant si l'apôtre Paul ou Pierre disait ça ?« Je suis le Seigneur du sabbat », qui est quand même le quatrième commandement. Le sabbat est l'un des commandements de Dieu lui-même. Le fait que Jésus déclare sa seigneurie sur ce commandement divin est tout simplement stupéfiant. Et on commence à comprendre, j'espère, ce que Marc est en train de répondre à la question « Qui est Jésus ?» Maintenant, la question qui nous vient peut-être à l'esprit est tout simplement « D'accord, mais en quoi cela nous concerne-t-il aujourd'hui ?» On connaît les parisiens, mais les pharisiens, on n'en a pas croisé depuis belle lurette. Et puis le sabbat strictement réglementé, c'est quand même loin derrière nous. Mais nous devons comprendre que si Jésus est le Seigneur du sabbat, il est aujourd'hui encore le Seigneur de notre vie spirituelle, le Seigneur de notre piété. Il a l'autorité de contester notre façon de vivre notre foi. Il a l'autorité de bousculer nos traditions, qu'elles soient culturelles, familiales et même religieuses, spirituelles. S'il n'est pas le Seigneur de notre foi, de notre piété, alors nous nous perdons. Et notre piété n'est que vaine et vide religiosité. Et nous sommes tous, je pense, parfois, tentés d'ériger certaines traditions. Je sais que certains sont allergiques aux mots, mais en fait, on en a tous des traditions. Juste, on n'appelle pas toujours ça comme ça. Nous sommes tous tentés d'ériger certaines traditions aux dépens de l'autorité suprême de Jésus. Alors, pour certains, ce sont peut-être des traditions culturelles ou ethniques. Ah, mais dans ma culture, voilà, on fait des choses comme ça, et puis ça ne se discute pas de toute façon. Parfois, ce sont même des traditions d'inspiration chrétienne qui sont devenues le cœur de la foi. Ils sont devenus le cœur de la foi. Peut-être aussi que certaines manières de vivre le culte, certaines manières de chanter nos chants, quel que soit le registre des chants, ont pris tellement de place que ce sont elles, finalement, qui ont presque autorité sur notre vie religieuse. Peut-être que certains thèmes théologiques secondaires, qui peuvent être importants, mais secondaires quand même par rapport au cœur de l'Évangile, ou certaines lectures influencées par les sciences humaines, sont devenues tellement notre dada que finalement l'autorité de Jésus passe au second plan. Peut-être que nos traditions culturelles, sociales, familiales, voire même nos préférences politiques ou nos combats personnels sont devenus tellement mélangés avec notre foi que ce n'est plus vraiment Jésus qui a autorité, mais ce cocktail très personnel que nous avons mélangé au fil des années. Si Jésus-Christ, sa personne, son œuvre, pour nous sauver de nos péchés, de la mort, comme l'a témoigné Francky tout à l'heure, sa résurrection, cette relation vivante qu'il nous offre, si cela n'est pas au centre de notre vie spirituelle, alors nous n'avons pas seulement perdu un juste équilibre, mais nous sommes en train de perdre de vue l'essentiel. J'en viens maintenant à la seconde question que nous voulons nous poser. À quoi sert le sabbat ? À quoi sert le sabbat ? Une nouvelle scène commence au début du chapitre 3. Après avoir traversé le fameux champ de blé, Jésus et ses disciples arrivent en ville, à Capernaum, et ils entrent dans la synagogue, la même, Marc précise, ils rentrent à nouveau dans la synagogue, la même où Jésus, peu avant, avait libéré un homme d'un esprit impur. Et là, à nouveau, il y a un homme qui souffre, pour une raison très différente, il a une main paralysée. Alors, une chose qui est frappante dans cette petite scène, c'est de voir que l'homme ne demande rien. Très souvent, que Jésus opère un miracle, c'est en réponse tout de même à une demande qui lui est faite, « Fils de David, aie pitié de moi, viens à mon secours, etc. » Ici, l'homme est juste là, mais il n'est pas le seul, les pharisiens, eux aussi, sont toujours là. Non pas, pour certains d'entre eux en tout cas, pour adorer Dieu en ce jour de sabbat, mais afin, verset 2, de pouvoir accuser Jésus. Surtout pour ça qu'ils sont venus. Afin de pouvoir accuser Jésus. Et là encore, ils scrutent. Et ils attendent de voir ce que Jésus va faire. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir le prendre en faute, là encore? Ça me rappelle l'examen du code de la route où les questions sont délibérément posées, dans certains cas, pour induire en erreur. On sait que l'État a besoin que 50% des candidats repassent l'examen. Alors, les questions sont posées non pas tant pour instruire que pour piéger ou pour faire échouer. Aucune amertume dans ce que je dis. Ça remonte quand même à quelques années, mais pas tant que ça. Eh bien ici, on fait face à nouveau à un commandement juste et bon, mais qui a été détourné de façon aussi radicale qu'absurde. Guérir un homme souffrant serait apparenté à un travail, entre guillemets, et donc interdit le jour du sabbat, selon l'interprétation qu'en font les pharisiens. Et là, et Marc décrit la scène, je trouve, de façon magistrale, excellent narrateur, verset 3, Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, là !» au milieu. Et là, on imagine bien que tout le monde fait silence. Tous les regards sont rivés sur cette scène. Et la question que Jésus va poser d'une profondeur exceptionnelle, on a ici, je trouve, l'un des bijoux de l'évangile de Marc. Verset 4, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Jésus retourne entièrement la question de ses adversaires, la question qu'ils ont en tête. La question qu'ils sont en train implicitement de poser à Jésus est la suivante. Est-il permis de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Mais Jésus va recadrer cette question dans des termes beaucoup plus larges. Est-il permis de faire du bien le jour du sabbat? Car n'est-ce pas cela, après tout, le sens même du sabbat selon la loi de Moïse? Faire du bien, permettre aux hommes et aux femmes, dans toutes les conditions et circonstances, les chefs comme les serviteurs, et même dans la loi de Moïse, les animaux et les plantes ont le droit de se reposer. permettre à tout le monde de se reposer, d'être renouvelé. Le sabbat n'a pas été pensé par le Créateur pour contraindre l'homme, mais au contraire pour le libérer. C'est un commandement qui rappelle à l'homme qu'il ne doit pas être esclave de sa production ou de son travail. Un commandement qui lui rappelle qu'il a été créé à l'image de Dieu et que sa vocation première, c'est de connaître et d'aimer Dieu, de lui faire confiance pour pourvoir à ses besoins. Comme Jésus l'a dit un peu plus tôt, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Et donc Jésus ne permettra pas à ses détracteurs de poser la question dans les termes, dans leurs termes à eux. Il les place au fond des choses et il a l'autorité de les placer au fond des choses. Est-il permis de faire du bien le jour du sabbat? Est-il permis de soulager la souffrance le jour du sabbat? Est-il permis de soutenir la vie le jour du sabbat? Vers la fin du Deutéronome, on a en quelque sorte la conclusion de la loi de Moïse. On pourrait, je crois, dire ça ainsi. Chapitre 30, verset 19 du Deutéronome, quand Dieu dit à son peuple, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Choisis la vie. » Est-il possible ce matin que certains d'entre nous, peut-être enfermés dans des schémas destructeurs, peut-être enfermés dans une religiosité de façade, ont besoin d'être libérés et remis sur pied par cette parole, choisis la vie. Est-ce que nous vivons notre foi en Jésus comme une contrainte pour nous et pour les autres, un fardeau que nous voulons imposer à l'autre plutôt qu'une bonne nouvelle qui nous libère, un fardeau qu'on veut parfois même s'imposer à soi-même? Par exemple, je ne sais pas, est-ce que nous scrutons les gens pour voir si ils prennent la scène alors que nous estimons qu'ils ne devraient pas le faire? Est-ce que nous surveillons tous les faits et gestes de nos frères et sœurs pour guetter les choses qui les qualifieront ou les disqualifieront à nos yeux? Ou est-ce que nous sommes profondément portés par un message libérateur, bienfaisant, qui n'asservit pas l'homme, mais qui le libère au contraire, le libère pour vivre la vie d'obéissance que Dieu nous invite à vivre, nous appelle à vivre, mais un message qui libère? Au verset 5, Marc décrit une fois de plus les choses de manière poignante. « Alors il promena sur eux un regard de colère. Et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la tendit et sa main fut guérie. » Oui, il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Il est permis de restaurer, il est permis de guérir, il est permis de relever. Parce que c'est Dieu. Parce que c'est ce que Dieu, j'ose le dire, aime faire par-dessus tout. Sauver. Relever, faire du bien, guérir, libérer, comme il a fait pour Francky, comme il a fait pour tant d'entre nous, comme il veut le faire encore pour beaucoup, y compris présents ce matin. Alors cette scène dans la synagogue, sur le moment, elle se termine bien, entre guillemets, du point de vue des disciples de Jésus, mais il ne faudrait pas passer à côté de deux notes plus sombres dans ce texte. D'abord ce regard plein de colère, une juste colère que Jésus pose sur ses adversaires. Ce n'est pas de la haine ou de la rancune, mais c'est la colère de Dieu et sa peine, précise le texte, sa douleur, sa peine face à l'endurcissement de leur cœur. L'endurcissement du cœur, ce par quoi il faut comprendre non pas tant une absence de compassion, comme pour ceux qui étaient là à la rencontre, à l'excellente soirée du 72 hier soir, on a parlé de ces expressions qui veulent plus dire les mêmes choses aujourd'hui que dans le contexte de l'époque. La dureté du cœur dans la Bible, c'est plutôt l'incapacité à comprendre et l'incapacité à se laisser toucher par l'œuvre de Dieu. Dieu est venu sauver, il est venu libérer, il est venu remettre sur pied. Il est venu renverser les schémas futiles et destructeurs qui détournent la pensée du Créateur pour servir les intérêts humains. Et cela nous place face à cette question. Est-ce que nous avons le cœur trop dur pour laisser Dieu changer ces parties de nos vies et de nos pensées qui lui restent encore rebelles? Est-ce que nous avons le cœur trop dur pour laisser Dieu remettre en question des choses qui aujourd'hui nous paraissent essentielles, alors qu'en fait, elles nous détournent de lui et de l'Évangile? Avons-nous le cœur trop dur? Certains doivent se poser la question pour laisser même Dieu intervenir dans notre vie pour saisir cette bonne nouvelle que Jésus nous offre. L'autre note sombre à la fin du texte, c'est de voir ces hommes qui condamnaient Jésus pour avoir guéri un homme le jour du sabbat, se réunir le jour du sabbat toujours, pour savoir comment faire mourir Jésus. Quand même le comble d'une sombre ironie. Critique Jésus pour avoir guéri un homme le jour du sabbat. Eux se réunissent pour comploter, pour faire mourir un homme le jour du sabbat. Et cela met en relief de façon frappante le verset 4 et cette parole de Jésus. Est-il permis de sauver une personne ou de la tuer ? Aveuglés par un cœur endurci, les adversaires de Jésus ne sont même pas capables de voir la sombre ironie dans leur attitude. Alors je crois que ce texte peut nous conduire à faire un bilan de santé de notre cœur à la lumière de la parole de Dieu. Et de nous poser cette question, courons-nous le risque de l'endurcissement ? Ou bien est-ce que nous avons fait toute la place à l'autorité de Jésus dans nos vies ?